Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal en français, Mimi Ngumba Mulungu.
Bonsoir à tous. 8 morts dans un accident de circulation ce matin sur la route poids lourd à Kinshasa. Un problème technique survenu sur un des véhicules en collision serait à la base de ce drame. Hausse le prix du pain depuis ce matin dans la capitale congolaise, une situation déplorée par les consommateurs de cet aliment de base de quinoa. L'invité de Radio Kapi ce soir, c'est le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications. Il parlera des conditions que pose la RDC pour sa participation à la conférence humanitaire de Genève. Bienvenue à tous et à toutes dans cette édition d'information. 8 morts et une dizaine de blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce matin sur la route poids lourd, mais non à l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Un camion Ben en provenance du centre-ville est entré en collision avec un bus Mercedes 207, communément appelé Esprit de mort, en provenance de la commune de Massina. Billy Yvan Lutumba s'était rendu sur place. On l'écoute.
Le choc est frontal au contact des deux véhicules, chacun roulant à vive allure sur une chaussée sans en tout cas nid de poule qui pousserait l'un ou l'autre à quitter sa bande. Curieusement, c'est le camion qui quitte sa bande pour se rentrer dans un bus Mercedes 207 bourré des passagers. Sur le coup, le conducteur du bus est tué et 6 autres corps des passagers sont sortis de ce qui reste du bus 207. Les autres passagers sont très mal en point quand on les achemine à l'hôpital. Ils sont gravement blessés et pour la plupart inconscients. Ce qui laisse croire que le nombre des morts pourrait s'allonger. Pour dire, comme nous le témoigne un jeune homme qui a sorti certains corps du bus.
Le chauffeur du camion venait de la bande à l'envers Ndjili. Il l'a quitté pour venir cogner le bus. Le chauffeur de 207 est mort sur place. Le cerveau sorti du crâne seul, le receveur et une maman en sont sortis sains. Les autres, en tout cas, sont morts en cours de route et à l'hôpital.
Pris de colère, au vu des circonstances de l'accident qui serait lié à une défaillance technique ou un manque de maîtrise du conducteur du camion, la population y met le feu. Les deux engins en contact se consument totalement malgré l'intervention du service anti-incendie. La police a du moins interpellé le chauffeur du camion pour raison d'enquête.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur étaient ce lundi à la CENI pour la transmission de listes définitives de partis et regroupements politiques. Paul Matendo, bonsoir, vous êtes sur place à la CENI. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette descente du vice-premier ministre dans cette commission électorale?
Bonsoir Mimi Ngumba, c'est vrai, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Arimbo Morasakani, il venait de procéder au dépôt de listes actualisées des partis politiques dans son échange avec la CENI. Il a indiqué qu'il s'agissait de 600 partis politiques et d'une centaine de regroupements des partis politiques. Et le vice-premier ministre était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, et secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Et du côté de la CENI, le président de la CENI a remercié Henri Morasakani pour le travail abattu. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'instant.
Merci Paul pour ces quelques informations et nous allons revenir sur d'autres détails dans nos prochaines édition. Au Nord Kivu, la marche pacifique de la Lucha a été brutalement réprimée par les éléments de la police nationale congolaise à Béniville. On compte 6 blessés, dont un grave, et la marche n'a pas abouti au point des chutes prévues, à savoir le quartier général de la MONUSCO à Mavivi. C'est là que les militants de la Lucha comptaient remettre leur mémorandum adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de détails, Christian Mapendano.
Depuis le matin, des policiers étaient déployés le long de la route Beni-Mavivi à partir du rond-point de l'indépendance situé au centre-ville de Beni où ils attendaient les manifestants. Les militants de la Lucha se dirigeaient au quartier général de la MONUSCO à Mavivi pour déposer leur mémorandum. Dans ce mémorandum adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, la Lucha demande que la MONUSCO soit dotée d'un mandat plus robuste pour la protection des civils, la certification du processus électoral et la protection des droits de l'homme, comme l'explique un des manifestants.
La MONUSCO soit dotée de moyens nécessaire pour assurer la protection des civils. Le deuxième point, on voulait demander la certification du processus électoral. Le troisième aspect sur lequel on voulait que le nouveau mandat de la MONUSCO se consacre vraiment, il s'agit de la promotion du droit de l'homme.
Notons que sur la route au niveau du rond-point appelé NRA, seulement près d'un kilomètre du point de départ, les manifestants se sont heurtés à une résistance de policiers qui les ont brutalisés à coups de matraque en tirant des gaz lacrymogènes. Six des manifestants ont été blessés, dont un grave qui a d'ailleurs subi une intervention chirurgicale à l'hôpital général de Beni. Enfin, dans la ville voisine de Butembo, une manifestation similaire a eu lieu et s'est déroulée quant à elle sans incident. Beni, Christian Mapendano, Radio Kapi.
Manifestations, on en parle encore dans plusieurs villes du pays où des jeunes militants de la Lucha ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de doter sa mission en RDC d'un mandat plus robuste pour des élections libres et apaisées dans ce pays, ainsi que pour sécuriser la population. Et à Goma, elle a eu lieu devant les installations de la MONUSCO où ces jeunes sont allés déposer leur mémorandum. Mais la police nationale congolaise a dispersé ces jeunes, causant 5 blessés parmi les manifestants et un policier. Freddy Bikumbi, reportage.
La police congolaise n'a pas digéré la présence de ces jeunes manifestants devant les installations de la MONUSCO à Goma. Face aux bombes lacrymogènes, ces jeunes ont forcé leur entrée dans les installations de la MONUSCO pour se sauver. Dans cette débandade, 5 parmi eux ont été blessés. Un policier s'est aussi blessé à son œil droit en voulant lancer une bombe lacrymogène. Pris de peur, ces jeunes de la Lucha ont passé des heures entières dans les installations de la MONUSCO, vu que les policiers les attendaient dehors. L'un d'eux, Gisele Muhiwa.
Notre objectif, c'est de demander au Conseil de sécurité de voter une résolution qui va contraindre le pouvoir de Kabila de démissionner. Parce que nous pensons qu'avec ces pouvoirs, nous n'aurons jamais de bonnes élections, nous n'aurons jamais la sécurité, nous n'aurons jamais le respect des droits de l'homme. Nous voulons dire au Conseil de sécurité de donner à la MONUSCO un mandat qui va lui permettre d'agir.
Au finish, ces jeunes de la Lucha ont été reçus par le chef des bureaux de la MONUSCO Goma, Daniel Ruiz, et par les responsables de la section droits de l'homme. Ils ont expliqué le calvaire qu'ils ont eu face à la police congolaise pour déposer leur mémorandum. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Restons dans cette province où les 10e journée diocésaine des jeunes de Goma ont été clôturées hier dimanche. Occasion pour l'évêque de Goma, Théophile Kaboy, de réaffirmer que son diocèse ne s'est jamais départi du programme général tracé par la SENCO, contrairement aux accusations de plusieurs jeunes de Goma. Jules Ngala nous en parle.
Théophile Kaboy l'a dit et répété devant 15 000 jeunes, en swahili comme en français.
Le diocèse de Goma est et reste en union d'esprit, de cœur et respecte toutes les orientations d'ensemble émises par la SENCO en vue d'une sortie de crise apaisée de notre pays.
Une profession de foi qui intervient une semaine seulement après que 9 jeunes activistes de Goma ont été relâchés de la prison Mozenze. De la Lucha, de l'UDPS ou des chrétiens ordinaires, ils ont passé 60 jours en prison, accusés par le diocèse de Goma de plusieurs chefs, dont séquestration des prêtres, violation des domiciles et destruction méchante. Le 20 mars dernier, le tribunal de paix de Goma a qualifié ces accusations de non fondées. N'empêche que lors de la messe de clôture des JDJ hier dimanche, Monseigneur Kaboy a accusé certains jeunes d'être payés et au service des puissances étrangères qu'il n'a pas nommées. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Augmentation du prix du pain à Kinshasa. La baguette appelée généralement Kanga Journée est passée de 200 à 300 francs congolais, le pain carré de 300 à 400 francs congolais. Cette hausse, visible à l'usine de panification Pain Victoire, ne va pas sans conséquence chez les revendeuses de pain dans la capitale. Jean-Pierre Elali Coco, reportage.
Les vendeuses de pain ont été surprises ces lundi matin aux différents points de livraison de Pain Victoire. Le prix du pain est à la hausse. Il est passé de 200 à 300 francs congolais pour la baguette appelée communément Kanga Journée et de 300 à 400 francs pour le pain carré. Le pain au lait de cette même usine revient à 1200 francs congolais au lieu de 1000 francs congolais. Un changement qui ne va pas sans grincement des dents chez les vendeuses.
Aujourd'hui, un pain coûte 300. Le carré passe de 300.
300 à 400 francs congolais, il fallait aussi qu'ils réajustent notre commission. Jamais le pain ne peut coûter 300. Il doit demeurer à 200 francs congolais, sinon ce sera intenable.
Difficile d'obtenir la version des responsables des pains Victoire. Les portes de l'entreprise nous ont été fermées. Mais selon certaines indiscrétions, l'augmentation serait due à la hausse du prix du sac des froments qui serait passé de 42 000 à 67 000 francs. En revanche, à l'usine de panification de Kinshasa, UPAC, les vendeuses vaguent normalement à leurs occupations quotidiennes. Sur les étalages, les tarifs sont restés les mêmes qu'il y a un ou deux ans.
En Ituri, un mouvement retour des déplacés du territoire des Djougou s'observe depuis le week-end dernier dans plusieurs villages dans cette entité au nord de Bunia. D'autres habitants de ce territoire qui avaient fui en Ouganda regagnent également leur localité d'origine. Et selon de sources concordantes, ce retour est dû notamment aux conditions précaires dans leur milieu de refuge et au déploiement de FRDC dans d'autres coins. Plusieurs marchés hebdomadaires qui étaient fermés suite à l'insécurité sont également opérationnels. Isaac Remoyope nous en parle.
À Chomia, au sud de Bounia, au bord du lac Albert, environ 60 réfugiés congolais sont arrivés ce lundi à bord de trois embarcations en provenance de l'Ouganda. Il s'ajoute à d'autres déplacés qui sont retournés depuis samedi en provenance de Bounia et de Kasenyi. Ces mouvements retours s'observent aussi au nord de Bounia dans la même entité territoriale. Selon la société civile de Djougou, environ 6000 personnes sont déjà rentrées dans trois chefferies, Walendu Pitsi, Walendu Zatsi et Baema Bajere. Il s'agit notamment à Nizi, à Iga Barrière, Boule, Pimbo, Fataki et Libi. Ces déplacés proviennent essentiellement du camp de l'hôpital général de Bounia. Certains déplacés estiment que leurs conditions de vie sont précaires dans les camps et dans des familles d'accueil. Ils préfèrent retourner dans des villages proches de leur milieu d'origine à partir desquels ils fréquentent leurs champs. D'autres sont encouragés par la présence des FARDC déployés dans leurs entités pour sécuriser la population. Ce mouvement retour a permis la reprise des activités dans plusieurs marchés dont Katoto, Largu, Kalo et Fataki. Signalons que dans certaines zones, l'insécurité persiste suite aux attaques des assaillants, notamment dans la chefferie de Baema Nord et de Walendu Tatsi. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le calme est revenu ce matin dans la localité de Yaïsoulé, située à plus ou moins 300 kilomètres à l'ouest de Kisangani. Hier, dans l'après-midi, cette localité du territoire d'Isangui a été secouée par des coups de feu de la police. Les forces de l'ordre ont voulu disperser les manifestants de l'UNAFEC qui attendaient le retour de leur président territorial en provenance de Kisangani. Récit de fait, Jacques Moukonkolé.
Le président de la société civile de Yaïsouli rapporte que cet incident est survenu vers 16h, heure locale, lorsque les militants de l'UNAFEC se sont rassemblés au beach pour accueillir leur président territorial. Son retour a coïncidé avec l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale dans cette même localité. Pour la société civile locale, la police a estimé que ce rassemblement des militants de l'UNAFEC allait diluer la présence du numéro 1 de la première institution politique provinciale. Il fallait alors les disperser. Des coups de feu ont retenti et des gaz lacrymogènes ont été lancés dans la foule. La confusion qui s'est créée a duré plus d'une heure. Aucun blessé ni des dégâts matériels importants n'ont été enregistrés. Pas non plus d'arrestations opérées parmi les militants de ce parti politique appartenant autrefois à l'aile de la majorité. Toutefois, l'on signale que le président de l'UNAFEC arrêté a été arraché d'entre les mains de la police par ses militants. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga a déclenché depuis quelques jours une opération de bouclage dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Et le week-end dernier, cette opération a eu lieu au quartier Kasapa dans la cellule Vietnam dans la commune annexe. Le commandant de la police ville de Lubumbashi avance un bilan d'une vingtaine de personnes interpellées, des plusieurs cartons de chanvre et quelques effets militaires saisis. Le point sur place avec Colin Djuma Moussompo.
Selon le commandant de la police ville Lubumbashi, ces opérations ont d'une part pour objectif la lutte contre les cas d'insécurité décriés depuis un certain temps dans la ville et de l'autre la recherche de bandits des grands chemins qui sèment panique et désolation dans la population. C'est ainsi, le week-end dernier, une opération du genre a été menée au quartier Mampala dans la commune Lubumbashi. Les sources policières parlent de deux armes saisies et de plusieurs sacs de chanvre, de cartons de l'alcool à forte dose ainsi que d'une dizaine de personnes interpellées. Hier dimanche, vers 4h du matin, la même opération a été menée au quartier Kassapa, cellule Vietnam. Ce quartier est réputé être le bastion des criminels et autres bandits. Témoignage d'un habitant.
Ici chez nous, au quartier Vietnam, l'insécurité bat son plein. À 20h, 21h, il y a les gens qui ravissent des personnes, leur téléphone, ils nous tabassent la nuit.
Le commandant de la police ville de Lubumbashi appelle donc à une collaboration de la population pour la réussite de cette opération qui, d'après lui, permettra certes de réduire le problème d'insécurité. Il faut noter que cette opération est menée quelques jours seulement après l'évasion des 10 détenus de la prison de la Kassapa. Et parmi ces évadés, il y a des bandits de grand chemin. Lubumbashi, Colin Djuma Moussampo, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Le fils de l'ancien président angolais, José Filomeno dos Santos, a été inculpé de fraude pour avoir ordonné, quand il dirigeait les fonds souverains du pays, un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le procureur général adjoint lors d'une conférence de presse. Monsieur Santos est poursuivi pour fraude, détournement des fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. En Côte d'Ivoire, la coalition au pouvoir, les rassemblements des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a remporté les premières élections sénatoriales du pays avec 50 des 66 sièges en jeu. Ce pointage a été réalisé samedi dernier par l'AFP à partir de l'annonce des résultats, circonscription, par la commission électorale indépendante. En l'absence de l'opposition qui boycottait les scrutins, cette victoire était attendue. Et le tribunal de Cotonou a condamné cette responsable d'importantes compagnies pharmaceutiques du Bénin à la prison ferme, une sanction dont la lourdeur s'est vue un symbole dans la guerre aux faux médicaments. Rendons-nous à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où la FAO vole depuis le début de la saison culturelle au secours de la femme vulnérable. Le projet cible des dizaines de femmes de sites des déplacés. Dans quel contexte s'organise cette prise en charge de femmes vulnérables? Deux sites sont en ligne de mire dans ce projet de FAO et c'est François-Xavier Mibé qui nous en parle.
Ce sont des cris de détresse du genre et les conditions de vie déplorables des femmes qui ont incité la FAO à agir pour les femmes vulnérables des sites de déplacés. Une situation qu'a déplorée il y a 3 semaines déjà la ministre de développement du Royaume des Pays-Bas arrivée dans la zone. C'était lors de la visite de travail du représentant spécial adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires. Sigrid Krak.
C'est des problèmes connus malheureusement, absence d'éducation, l'accès à la santé et une situation de fragilité sécuritaire mais mentale aussi pour les femmes qui ont été violées, qui souffrent harcèlement ou l'abus sexuel.
Quelle est la réponse à leurs préoccupations?
Ils doivent attendre une réponse de la communauté internationale mais aussi en partenariat avec le gouvernement congolais. Par rapport à la sécurité, c'est toujours la responsabilité du gouvernement. Le supplémentaire de la communauté internationale, c'est sur le plan humanitaire. En anticipant la conférence de 13 avril à Genève, on fera de notre mieux pour donner tous les renseignements à la communauté internationale, des donateurs surtout, pour s'investir.
Pour la FAO, en attendant la réponse de la communauté internationale, il y a aussi à mettre en compte des activités génératrices de revenus auxquelles toutes ces femmes s'étaient livrées auparavant. Le responsable du bureau de la FAO Kalemi,
nous avons 2 houes par ménage, un râteau par ménage, une bêche, 10 arrosoirs. Et en plus de cela, nous donnons à chaque ménage 40 grammes de 4 espèces de semences maraîchères qui vont lui permettre de pouvoir d'abord diversifier l'alimentation en légumes et pouvoir produire dans les 2 ou 3 mois qui suivent, éventuellement compléter l'alimentation de la famille et vendre les surplus pour pouvoir générer un petit revenu pour s'acheter un savon, de l'huile.
Qu'est-ce que vous visez dans cette activité?
Ce sont des ménages qui étaient au départ des agriculteurs. C'est leur principale source de revenus. Suite au conflit, ils ont tout perdu. Ils vivent sous ces chocs-là. Là, nous cherchons à améliorer leurs moyens d'existence, apporter un appui dans l'alimentation quotidienne. Un surplus de la production, c'est une joie. Quand une femme qui était dans son village en train de produire et peut continuer son activité, avoir un peu d'argent, avoir la nourriture, elle rentre dans sa dignité.
Dans ce projet, La FAO cible 2000 ménages du site de Katanika et 500 autres dans les trois villages voisins ayant accordé des portions de terre aux personnes déplacées internes. Kalemi, François Xavier Mibé, Radio Okapi.
L'invité.
Le gouvernement de la RDC a annoncé dans un communiqué qu'il décline sa participation à la conférence de Genève organisée par l'ONU pour garantir des contributions financières afin de répondre à la crise humanitaire qui traverse le pays. L'exécutif congolais conditionne sa décision de participer à cette rencontre à l'harmonisation des vues avec les partenaires humanitaires, notamment sur les indicateurs de la situation humanitaire actuelle en RDC et le nombre des déplacés. José Makila, vice-premier ministre ministre des Transports et Communications et qui fait l'intérim du Premier ministre revient sur les raisons qui ont motivé cette décision. Il est l'invité de Radio Okapi et s'entretient avec Blaise Makassi.
Bonjour, Monsieur José Makila.
Bonjour.
Dans un communiqué signé par vous, le gouvernement de la République décline sa participation à la conférence de Genève. Quelles sont les raisons qui motivent cette décision?
Le lundi 12 mars dernier, il y a eu une rencontre haut niveau entre, d'une part, la délégation conduite par Madame la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement du Royaume des Pays-Bas, qu'accompagnait Monsieur le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et les coordonnateurs de secours d'urgence des Nations Unies. Et d'autre part, le gouvernement représenté par ma personne, ainsi que le ministre des Affaires humanitaires. Il était question d'évaluer le niveau d'activation d'urgence humanitaire que nous a attribué ces organismes. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on compare la République démocratique du Congo avec la Syrie et le Yémen? On nous place sur la catégorie L3, c'est-à-dire une catégorie qui dit que ce pays représente un grand danger, nous l'avons dit, de nous montrer les critériums qui fait que le Congo soit classé dans cette catégorie-là. Ils ont présenté des excuses. Nous leur avons demandé que nous puissions nous mettre ensemble, vider la divergence entre nous en ce qui concerne les chiffres, c'est-à-dire le nombre de réfugiés déplacés. Ils ont accepté qu'on fasse cette opération ensemble dans le cadre de concertation nationale. À notre grand étonnement, ils vont à New York pour dire autre chose. Le nombre que eux-mêmes ont noté sur leur papier était de 4 500 000. Ils parlent de 8 millions. L'activation que eux-mêmes avaient demandé qu'ils allaient revoir ça à la baisse parce que ça ne reflétait pas la réalité. Non. Ils gardent la même activation du degré de danger. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Accepter d'aller dans cette réunion-là avec toutes ces indications, c'est que, un, nous acceptons être complices des gens qui veulent prendre de l'argent sur le dos des Congolais. Et des deux, nous lançons un signal à ce moment-là aux opérateurs ou aux investisseurs de ne pas venir au Congo parce que nous sommes comparables à la Syrie et au Yémen. Pourquoi nous disons la République démocratique du Congo ne va pas aller se faire salir dans un mensonge qui est dix mots?
Vous conditionnez votre participation à l'harmonisation des vues entre vous et les chiffres que donnent les humanitaires ici en République démocratique du Congo.
Exactement. Nous ne pouvons pas, nous, aller cautionner l'inconscionnable. C'est que c'est le chiffre qui a été avancé, le degré de risque qu'il y a, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, c'est une condition sine qua non. Nous refusons de la manière la plus énergique de participer à cette réunion si nous ne nous mettons pas d'accord. Parce que les bailleurs ne vont donner cet argent que si nous nous mettons d'accord sur tous les points qui ont été évoqués, qui suscitent à ce que les bailleurs puissent sortir cet argent.
Oui, alors que deviennent ces populations qui, depuis un certain moment, ne vivent que de l'aide humanitaire?
La République est responsable. Et là, on peut vous sortir le tableau d'assistance de la République. C'est loin de ce que vous pouvez imaginer par rapport à ce que eux ramène jusqu'à aujourd'hui. Et je leur avais brandi même ce tableau. Donc, ne nous voilons pas les faces. Nous pensons que jusqu'à présent, la République maîtrise parfaitement la situation. Nous ne refusons pas que l'aide vienne. Mais on ne peut pas cautionner une aide par rapport à un mensonge. Ce n'est pas possible. Pourquoi ils ne veulent pas venir pour qu'on puisse se concerter et se mettre d'accord sur les chiffres? Si ça ne va pas, qu'on aille vérifier dans chaque camp et qu'on compte. C'est facile, c'est la vérité. Pourquoi Les gens ne veulent pas affronter la vérité.
Alors, quelles sont les modalités que l'autre partie doit remplir pour que vous puissiez vous rencontrer?
On s'était mis d'accord de se retrouver dans un cadre de concertation. On ne s'était pas donné l'exercice de faire des déclarations mensongères. L'exercice consistait à se rencontrer et harmoniser le point de vue. L'exercice qui nous a été demandé, ce n'était pas qu'on se mette de dos à dos et commencer à faire des déclarations partout. Ce n'est pas responsable.
Ok, donc si une réunion qui se tient avant cette date, la République démocratique du Congo va donc participer à la conférence de Genève.
C'est la condition sine qua non, et qu'on puisse revoir et qu'on puisse impérativement revoir l'activation du niveau d'urgence humanitaire.
Monsieur José Makila, je rappelle que vous êtes ministre des Transports et Voies des Communications. Vous faites l'intérim du Premier ministre Bruno Tshibala qui est en mission. Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Okapi Sport. Et nous en parlons justement avec vous, Nana Mbala, ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Mimi Ngumba Mulongo, bonsoir à mes sportifs. Les Léopards devront être reçus demain mardi à Dar es Salaam, 13h heure de Kinshasa, par les Taifa Stars de la Tanzanie en match amical. Et pour ce faire, la FECOFA vient de confirmer sur son site internet que 4 joueurs ont demandé et obtenu le droit de quitter les stages. Il s'agit de Paul-José Mpoku, Standard de Liège en Belgique, Gaël Kakuta en France, Arthur Masuaku, West Ham en Angleterre et Jordan Ikoko de Guingamp en France. En cause, un vol aérien Kinshasa Dar es Salaam qui s'est éternisé avec notamment une longue attente au cours d'une escale à Addis Abeba en Éthiopie, mais aussi de problèmes lors du premier entraînement en Tanzanie hier soir avec l'extinction de projecteurs qui a mis un terme à la séance d'entraînement, de problèmes imputables que l'on attribue également au ministre du Sport et Loisirs, Papi Nyango. Il s'est justifié ici au téléphone de Nok Matondo.
En fait, vous ne m'amenez pas des jeunes gens qui le mois vous coûte 30-40 000 dollars de revenus pour un match amical au pays qui doit coûter 600 dollars de prime par jour. Donc je suis dans le droit de me poser la question, tous ces professionnels, ces prestigieux professionnels qui quittent l'Europe pour venir jouer en Afrique centrale, pourquoi on ne pouvait pas les regrouper dans les environs de leur lieu de prestation, à Paris, là où ils étaient regroupés, pour des rencontres sportives au même lieu? Cela coûterait moins d'argent à la République. Pour savoir, en ces engagements ici autour de l'OPAR, U20, U17, le groupe A, nous atteignons plus de 1 million de dollars. Je ne crois pas que nous manquons de ponts à construire, des écoles à construire, des hôpitaux à entretenir pour n'affecter que 1 million de dollars au profit de football. Donc, que nos compatriotes et également l'opinion sachent que le ministre avait le droit d'appréciation.
Notez que les Léopards U20 seront reçus le samedi 31 mars par les Taifa Stars de moins de 20 ans de la Tanzanie en match aller comptant pour les éliminatoires de la CAN de la catégorie dont la phase finale se jouera au Niger en 2019. Leur manche retour est prévu le 20 avril prochain à Kinshasa. Les Léopards U17, quant à eux, poursuivent leur préparation ici à Kinshasa en prévision du tournoi de l'UNIFAC prévu du 3 mars au 15 avril prochain à Limbé au Cameroun. Championnat national de football division 1, la suite de la compétition se poursuit mercredi au stade Amani de Bounia. Montbleu sera face à groupe Bazano en match de la première journée et à Kinshasa, Dragon Bilima accueillera Saint-Éloi-Loupopo. Et le jeudi, en match de la deuxième journée, V-Club recevra Sangabalende au stade de Martyr. Mais hier à Kinshasa, Rangers a été battu au stade de Martyr par AS Maniema Union, 2-3. Dragon, de son côté, tombé à Lubumbashi face à Don Bosco, 1-2. Et à Bounia, victoire de Desimpé sur Montbleu, 2-0. Préliminaire de la 54e édition de la Coupe du Congo de football. À Kinshasa, on démarre demain, mardi, au stade Tarafayel. En match d'ouverture, nous aurons 3 rencontres. OCK jouera RC Broder, JS Tiangou contre AC Oujana et Mont-Amba contre JS Kinshasa. Et dans le Bandundu, par contre, hier dimanche, Vutuka a battu Kingé sur la marque de 2-0. Au Kasaï occidental, une dernière rencontre du pool A de ces préliminaires de la Coupe du Congo de football a lieu cet après-midi au stade Jean de Katoka. AS Malolé et Kanemu ont fait jeu égal, 3-0. Blaise Ndongala.
Les quatre clubs demi-finalistes du préliminaire de la Coupe du Congo de football sont connus à Kananga. La Saint-Luc a terminé en tête du groupe B avec 9 points en 3 sorties. Elle est suivie du tout violent Tshipelele qui a 6 points pour le même nombre de matchs livrés. Si les qualifiés du groupe A sont également connus, mais il reste de savoir qui de Malolé ou de la Seca occupera la tête de ces poules-là. Les Oranges de Kananga ont terminé avec 8 points en 4 journées et la Seca 7 points jouera son dernier match ce mardi face à l'AS Kanemou. Si les Blues de Kananga gagnent leur dernier confrontation, ils termineront en tête du groupe avec 10 points. Et s'ils font match nul avec Kanemou, ils auront 8 points ex aequo avec les Oranges. Interrogé, la Ligue de football du Kassai Central démembré Liv Kok explique qu'en cas d'égalité des points entre les deux clubs, il sera obligé de se baser sur les goals à verrage afin de déterminer qui de Malolé ou de la Seca sera en tête du pool A de Kananga. Blaise Ndongala Mayanda, Okapi Sport.
Merci à vous de nous avoir suivis et c'est tout également Mimi Ngumba pour cette page sportive.
Merci plutôt à vous Nanambala pour ces informations. Notez pour terminer, le cours d'échange de la Banque Centrale du Congo renseigne que le dollar américain s'est échangé ce lundi à 1539,5 francs congolais pour l'achat et à 1696 pour la vente. Et c'est tout pour cette édition d'information de Radio Okapi. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, Innocent Olenga à la coordination, Pelé Kipela Mondo à la supervision. Merci à vous de nous avoir suivis.